sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Voilà, merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Yeah, quelques-uns vont bien. J'espère que tous ceux qui ont été timides pour répondre vont bien aussi. Bonsoir à Jean-Yves, bonsoir à son épouse, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux internautes. Je me réjouis ce soir de partager très simplement et très courtement la parole de Dieu sur un texte que j'ai eu l'occasion déjà de partager. Je m'arrêterai essentiellement sur la première partie de ce texte. Mais avant de prendre ce texte, j'aimerais juste vous montrer quelques diapos. Nous étions partis en vacances avec mon épouse à Madagascar à la fin du mois de septembre. Et je voulais vous montrer quelques photos avec Vanessa et Manu qui ont monté un orphelinat là-bas. Donc voilà les enfants de l'orphelinat, les personnes qui pendant une semaine ont été formées à faire un travail pour Quartier Libre, puisque nous avons maintenant démarré un troisième quartier. Nous étions là-bas il y a un an de cela déjà. Deux quartiers fonctionnent déjà. Voilà le petit Vonji, un garçon excellent, comme chacun de ses enfants d'ailleurs. Hein. Voilà, nous sommes en partance pour l'animation dans les quartiers. Avec mon épouse et nous, Vanessa. Voilà les enfants qui nous accueillent, hein, bien sûr, dès que nous arrivons sur le terrain. Voilà, nous avions jusqu'à 2000 enfants. Là, c'est le moment du goûter. Vous voyez les files interminables. Mais les enfants sont sages. Je dois le reconnaître. Alors, nous avons joué David et Goliath. Donc, Manu jouait le rôle de Goliath. Et puis, nous avions un petit David. D'ailleurs, le garçon s'appelait David. Et voilà ce qui est arrivé à Goliath. Je prophétise qu'il y aura beaucoup de David dans ce pays pour vaincre les nombreux Goliath. Voilà, vous voyez que même à Madagascar, ils savent faire des grimaces. Ils savent sourire. Voilà quelques enfants. Voilà la Benjamin de Quartier Libre. Voilà. Voilà, je voudrais... En particulier, vous emmenez ce message sur fond témoignages que j'ai eu l'occasion de vivre à Madagascar. Et j'aimerais prendre un texte que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de la parabole du Samaritain qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous lisons toute la parabole, mais je parlerai en particulier de ce qui me semble, eh bien, ce soir nous concerner dans la première partie de ce texte. Voilà ce qu'il est dit là. Luc chapitre 10, versets 25 à 37, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Il me semble que si on devait établir un top 10 ou un top 10 des questions posées dans la parole de Dieu, eh bien la question que nous venons de lire dans le début de ce texte est certainement la question la plus importante que l'on puisse se poser. Tout au long de nos vies, on se pose les uns aux autres différentes questions, mais qui souvent demandent des réponses qui concernent eh bien, des éléments que nous avons besoin pour le temps présent ou un temps plus ou moins long. En tout cas, ce que nous vivons sur cette terre, tiens, entre autres, quelle heure est-il ? Concerne le temps présent. Comment t'appelles-tu ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors ça, c'est une question intéressante. Et nous sommes souvent heureux de consommer la réponse à cette question. Quand vas-tu, alors ça c'est une question que posent souvent les parents à leurs enfants, quand vas-tu te décider à ranger ta chambre ? On sent du vécu là, hein ? Quand te décideras-tu enfin à devenir intelligent ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Moi ça m'est arrivé qu'on me pose cette question. Quand te décideras-tu à devenir intelligent ? C'est une question un peu désespérée qui sous-entend que l'un de vos actes ou l'une de vos réponses n'ont pas été toujours celles qui ont été attendues. Quand est-ce que le nouveau bâtiment de l'Église ouvrira ? Ça, c'est une question intéressante, n'est-ce pas ? Et on se réjouit de ce qu'il ouvrira très bientôt afin de se remplir également très rapidement. Amen. Et puis une autre question que j'ai notée, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais... c'est quel cadeau allez-vous m'offrir à Noël ? Je sais pas, elle m'est venue comme ça. Une question un peu intéressée. En tout cas, lorsque l'on regarde la réponse à chacune de ces questions, on voit bien sûr qu'elles sont très terrestres et qu'elles ont un commencement et qu'elles ont une fin. Notamment, alors j'ai noté deux ou trois exemples. Un jour, toi qui es mineur, et encore tellement dépendant de tes parents, tu deviendras majeur. Et tu auras un appartement. Tu paieras toi-même tes factures. Tu devras laver ton linge. Et tu verras combien c'était agréable de vivre chez papa et maman. Même si tu arrives de penser que des fois ils sont charmants. Je ne sais pas à quoi vous pensiez d'ailleurs. Alors, une qui m'a concerné ces derniers temps, un jour, alors qu'on a intérieurement la pêche et qu'on voudrait encore déplacer des montagnes, on ne sera plus enfermé dans un corps qui vieillit et qui limite nos actions, qui les limite de plus en plus, en tout cas qui ralentisse nos actions. Hein, papa Jean, tu es moins rapide aujourd'hui que tu l'étais il y a... 50 ans ou 60 ans de cela. Notre corps est un peu comme une voiture que nous conduisons et qui vieillit de jour en jour. Notre corps, c'est la mécanique de la voiture. Et celui qui conduit, c'est l'âme de la voiture. Bien sûr, sans l'âme, la voiture ne peut pas rouler, le corps ne peut pas fonctionner. Quand nous étions à Madagascar, nous avions pris un taxi. Et vous savez, les taxis malgaches ne sont pas tout à fait en aussi bon état que les taxis français. Et puis alors, les femmes ont pris un taxi, et puis nous avons pris un autre taxi. Et comme à mon habitude, Sam le dit d'ailleurs souvent, quand je rentre dans un véhicule, on a l'impression que les véhicules ne me supportent pas. Nous devions en un quart d'heure, 20 minutes, arriver d'un point A à un point B. Mais voilà que le taxi, à la première pente qu'il a pris, eh bien, a laissé tomber son pot d'échappement et le pot d'échappement s'est brisé en deux. Et alors, ça n'avait pas l'air d'être trop grave. Il a remis le pot d'échappement, non pas là où il devait être, mais dans le coffre de la voiture. Je vous laisse imaginer le bruit de la voiture. Et puis en rentrant dans la voiture, je me suis rendu compte que le réservoir était un jerrycan d'essence branché avec deux tuyaux et à côté de la pédale d'embrayage. Alors j'aime autant vous dire que je priais que le taximan ne fume pas pendant qu'il nous emmène. Hein. Et à peine avait-il mis le pot d'échappement dans le coffre, nous rentrons à nouveau dans la voiture, je ferme la porte, voilà que le rétro intérieur tombe par terre. Et puis le clou, c'est que très fréquemment, quand nous prenions des pentes, la voiture tombait en panne, et il fallait donc qu'on descende pour marcher, le temps que la voiture reprenne des forces et nous rejoigne dans la descente. Et alors le clou du clou, c'est que quand nous avions pratiquement terminé la route, voilà que la voiture tombe en panne devant un policier qui voulait nous contrôler. C'est terrible. C'est terrible ce corps qui vieillit et qui perd ses forces et ses capacités, comme sa voiture d'ailleurs, eh bien, était en train de perdre toutes ses capacités. Mais il me semble qu'avec le temps qui passe, cette question, eh bien, se fait de plus en plus pressante à nous. Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle? Cette question est importante parce qu'elle n'a pas de durée de temps dans la réponse qu'elle donne. La vie éternelle est une vie qui ne s'arrête jamais. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question et y ont répondu. Néanmoins, lorsque nous nous rappelons cette question, nous pouvons également nous rappeler combien il est merveilleux de savoir que ce qui nous attend, c'est l'éternité. Ce qui nous attend, c'est cette vie excellente et ô combien merveilleuse, dans laquelle nous serons auprès de celui qui nous a tant aimés, qui nous aime tellement et qui se réjouit de nous accueillir dans ce lieu. Alors j'aimerais, pour trouver un écho dans la salle, peut-être que nous nous posions encore une fois ce soir cette question. Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle? Est-ce que vous êtes prêts à la répéter après moi? Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle? Eh bien, je suis très content que vous me posiez la question ce soir. Puisque justement, j'avais l'intention de vous donner la réponse que Jésus lui-même donnera à cet homme de loi. Peut-être que certains viennent de me poser la question simplement parce que je leur ai demandé de la répéter et ne sont pas forcément plus intéressés que cela à la réponse qui va être donnée par Jésus. Néanmoins, j'aimerais vous dire qu'il est dit que cet homme de loi a posé la question pour éprouver Jésus. Non pas forcément pour en connaître, pour connaître la réponse, mais pour l'éprouver. Son état d'esprit n'était pas des plus excellents pour obtenir une réponse de la part de Jésus. Mais parce que Jésus aime profondément répondre à cette question, parce qu'il aimerait profondément que vous trouviez vous-même une réponse satisfaisante et vraie à cette question, eh bien, il répondra à cet homme, même si cet homme posera la question pour essayer de l'éprouver. Alors, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui répondre. Cet homme dira, que faut-il faire? Autrement dit, sa question se trouve dans l'action. Faut-il faire quelque chose? Faut-il accomplir des œuvres? Faut-il, pour avoir la vie éternelle, faire des choses qui me permettent de la recevoir? Et Jésus lui dira, eh bien, maintenant assieds-toi, calme-toi, reprends tes esprits et lis ce qui est écrit dans la loi. Autrement dit, Jésus ramène cet homme à ce que dit la loi. Il nous ramène à sa parole. Il nous ramène à ce que disent les saintes écritures. Ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de répondre à cette question en disant « Il me semble que pour obtenir la vie éternelle » ou alors « Il me semble que pour l'avoir, il faut faire ceci ou cela ». Ce qui est important, ce n'est pas d'obéir à des traditions qui nous semblent être justes. d'obéir à ce qui se passe peut-être de génération en génération et que nous avons hérité et qui nous semble être juste. Ce qui est important, et Jésus le dira dans ce texte, c'est que nous soyons ramenés à ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous parle. C'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous inspire. Dans le livre des Juges, chapitre 21, versets 24 à 25, il est dit, je résume un petit peu, mais le peuple d'Israël partait un petit peu en vrille. Pourquoi ? Parce que n'ayant plus de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand nous faisons ce qui nous semble bon et non pas ce que dit la parole de Dieu, alors nous risquons de partir dans des sentiers qui seront difficiles. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous semble être bon. Ce qui est important, eh bien, c'est de regarder ce que Dieu dit dans sa parole. Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle ? Regardons la parole de Dieu. Laissons Dieu répondre à notre question. N'essayons pas de suivre des us et des coutumes, des traditions qui sont peut-être des traditions qui nous semblent être bonnes, mais qui ne sont pas ce que dit la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous étions à Madagascar, j'ai bien sûr réalisé là-bas une grande pauvreté, une grande souffrance. Et alors la question, en prenant un petit peu de recul, par rapport à la souffrance tellement présente dans ce pays, je me suis dit, mais Seigneur, à quoi est due en partie cette souffrance ? Pourquoi ce peuple souffre tellement ? Pourquoi fait-il partie des peuples considérés comme ceux des plus pauvres au monde ? Et alors je discutais avec un malgache né là-bas, qui avait bien sûr l'habitude de ce pays, de toutes ces traditions qui se donnaient de génération en génération. Et il me racontera, je vous raconte juste deux exemples, mais il me racontera notamment, en parlant d'enfants qui sont des jumeaux, il me dira notamment que dans le pays, les jumeaux sont considérés comme une malédiction. Et quand naissent des jumeaux, ils les prennent et ils les tuent. Et ça fait partie des traditions du pays. Ça fait partie de choses qui sont instaurées dans le pays et qui semblent être bonnes pour eux parce que cela se manifeste de génération en génération. Heureusement, un orphelinat là-bas vient d'ouvrir et accueille les jumeaux qui sont laissés en vie et qui leur sont apportés. Il y a également une tradition qui dit là-bas, eh bien que pour se marier, tenez-vous bien, pour mériter de se marier là-bas, vous êtes obligé d'avoir volé un zébu au moins une fois dans votre vie. Alors un zébu, c'est une vache malgache avec une bosse sur le dos. Et donc chaque homme qui veut être considéré par la famille à qui il demande la main de leur fille, chaque homme pour être considéré comme digne de se marier doit devenir au préalable un voleur de zébu. Si bien qu'aujourd'hui, dans le pays pullulent des groupes armés qui volent des troupeaux entiers. La conséquence évidemment de certains de ces actes, de certaines de ces coutumes pour le pays, c'est la pauvreté, c'est la violence. C'est des enfants que l'on appelle les enfants cartons, qui maintenant n'ont pour seule maison qu'un carton pour se couvrir et dorment près des décharges. La pauvreté qui se manifeste également par de nombreux enfants qui meurent de faim. Nous avions l'occasion de sortir dans le quartier pour faire quartier libre sur 4 après-midi. Et puis, nous emmenions les goûters. Il faut savoir que le goûter, qui est aussi petit que 20 cm sur 10, est pour certains de ces enfants le seul repas qu'ils mangent dans la journée. Ils n'ont pas d'autres repas. Certains enfants mangent de l'argile, de la terre glaise pour se bétonner l'estomac et s'empêcher d'avoir faim. Et puis, alors que nous étions dans le quartier, à la fin, vous savez, c'est j'avoue, c'est stressant. Hein. Vous savez, quand vous avez 1200, 1500 enfants qui ont faim, au moment du goûter, je dis, Seigneur, aide-nous. Je sais que mon épouse vivait des temps de stress particuliers. Et puis, à un moment, alors que nous partions, il restait un peu de goûter dans un carton, et voilà que malencontreusement, le carton tombe par terre. Et là, c'était impossible de retenir les enfants. Dans le carton, il devait rester 50 goûters. Mais sur ces 50 goûters, en l'espace de quelques secondes, je suis pas certain que le carton ait eu le temps de toucher le sol, que 500 enfants étaient au moins sur ce carton-là. Mais dans ces 500 enfants, en dessous de cette masse, il y avait des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors bien sûr, nous avons vite enlevé les enfants qui se précipitaient sur le goûter. Et nous avons trouvé, évidemment, sous cette foule d'enfants, des enfants qui étaient écrasés, dont une petite fille qui a failli perdre la vie, qui n'avait plus de souffle, pour qui il a failli prier et gloire soit rendue à Dieu, eh bien, il l'a touché et ramené à la vie. J'aimerais, eh bien, vous dire que souvent, il y a la conséquence de nos actes qui emmène de la pauvreté. Alors ça peut être à l'échelle d'un pays, lorsque viennent des lois iniques qui disent au fond que, eh bien, on ne veut rien savoir ou plus rien savoir de Dieu et on l'éjecte du pays en acceptant que ces lois soient votées. Oui, le pays peut alors plonger dans la pauvreté. Mais cela peut être le cas également dans le cadre d'une famille ou dans le cadre d'un individu qui refuse d'obéir à Dieu, qui refuse de connaître la volonté de Dieu, de connaître sa parole, et qui se contente de ce que disent les générations de génération en génération, qui se contente de l'appliquer sans, eh bien, mettre le nez dans la parole de Dieu et essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais Jésus dira à cet homme de loi, pour savoir comment obtenir la vie éternelle, il te faut revenir à la loi. Il te faut regarder ma parole. Il te faut prendre le temps d'écouter ce que dit ma parole. Parce que ma parole, c'est ma volonté. Et obéir à ma volonté, c'est recevoir ma bénédiction. Amen. Et puis, il y a deux ingrédients dans ce que dira cet homme de loi lorsqu'il regardera la loi et qu'il répondra à cette question. Il dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. L'ingrédient de ce texte, de ces deux textes, de ces deux commandements qui sont les plus importants de la parole de Dieu, c'est le verbe aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous sommes limités dans notre capacité à aimer les autres si nous n'avons pas d'abord réalisé combien Dieu nous aime. Amen. Réaliser que Dieu nous aime. Réaliser qu'il veut nous permettre de rentrer dans l'éternité. Réaliser cela, eh bien, c'est pouvoir le servir efficacement. Nous avons... Sam le soulignait, à la fin du séjour, nous avons été obligés de rallonger notre séjour parce que Air France faisait grève. Et nous n'étions pas tout à fait malheureux. J'aimerais vous montrer pourquoi, je vous montrerai juste deux photos. Parce que nous avons été logés dans un hôtel 5 étoiles. Voilà, aux frais de la princesse. Voilà, il y avait même un tapis rouge. Alors quand nous sommes repartis de l'hôtel, je suis allé voir l'homme qui mettait le tapis rouge là et je lui dis, mais est-ce qu'il est pour nous le tapis rouge? Il me dit, mais oui, il est pour tous les gens qui sont dans l'hôtel. Alors comme il n'avait pas fini de le mettre, du coup j'ai remonté les escaliers et j'ai attendu qu'il l'ait mis et je suis redescendu par le tapis rouge. J'ai dit, Seigneur, pour une fois qu'on me déroule un tapis rouge... Mais j'aimerais vous dire que de la même manière que nous avons, et c'est ce qui m'a impressionné, hein, nous avons, après deux jours dans cet hôtel, dû quitter cet hôtel pour retourner à l'aéroport et donc passer par des lieux d'extrême pauvreté. J'étais impressionné par le fait que entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté, il n'y avait aucune frontière, si ce n'est la cour de l'hôtel. Mais tout de suite après l'hôtel, nous rencontrions des gens qui faisaient la manche, des mamans avec leurs enfants. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est ainsi que toi-même, tu as quitté ton ciel dans lequel tu étais tellement bien. Toi-même, tu as quitté un ciel qui... Je ne sais pas combien d'étoiles on doit donner au ciel. Je pense que si nous étions dans un 5 étoiles avec le luxe qui se trouvait dedans, on peut considérer que le ciel a 50 000 étoiles ou 60 000 étoiles. Je ne sais pas combien, avec des rues pavées d'or. Et Jésus était auprès de son Père, dans ce ciel luxueux dans lequel un jour nous le rejoindrons. Et il est descendu sur ce tapis rouge qui menait entre le ciel et l'extrême pauvreté de cette terre, dans laquelle, eh bien, il a rejoint cette pauvreté dans une étable. Bientôt, nous arriverons à Noël. C'est le message de Jésus descendu de son ciel de gloire pour naître dans la pauvreté humaine. Mais pas uniquement la pauvreté physique, également... Eh bien, la pauvreté du cœur de l'homme. Et Jésus est venu afin que sa vie soit donnée pour chacun d'entre nous. Et si nous comprenons l'amour de Dieu pour chacun de nous, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils pour nous, alors nous pouvons commencer, comprenant son amour, le recevant, à être capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Voyez-vous, lorsque je lisais ce texte, je voyais que ce texte, eh bien, posait une question qui donnait la réponse. Cet homme de loi dira, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ? J'aime le mot hériter. J'aime le mot héritage. Parce que dans ce mot « héritage », il y a une notion de « tu ne mérites pas ». Lorsque nous héritons d'un bien, c'est parce que nous faisons partie de la famille proche de celui de qui nous héritons. D'un père, d'une mère, ce sont les enfants qui héritent de leurs parents, etc. Mais souvent, eh bien, nous n'héritons pas parce que nous méritons, nous héritons parce que nous faisons partie de la famille de qui nous recevons l'héritage. Autrement dit, eh bien, obtenir la vie éternelle, ce n'est pas d'abord une question de faire quelque chose. Obtenir la vie éternelle est une question d'héritage. Et je souhaiterais que tout un chacun d'entre nous, nous puissions dire, Seigneur, merci de ce que tu nous permets d'hériter de la vie éternelle. De ce que nous la recevions non pas par nos mérites, non pas d'abord parce qu'il nous faut faire quelque chose, mais parce que nous avons hérité, grâce à l'œuvre que tu as manifestée sur la croix, cette vie excellente et éternelle. J'aime ce qui est écrit dans Galates, chapitre 4, versets 3 à 7. Peut-être peut-on l'afficher. Galates, chapitre 4, versets 3 à 7. Voilà ce qu'il est marqué. Nous aussi, de la même manière... Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, regardez ce qu'il est dit là. Et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Il n'est pas marqué là que nous sommes héritiers en faisant quelque chose, mais nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Et lorsque nous recevons le Fils, L'Esprit en nous nous permet de dire « Abba Père, nous sommes adoptés dans cette famille merveilleuse. » Quelle Église ! Et que vous représentez en partie, vous qui êtes ici, que les internautes qui regardent représentent. Nous sommes fils et filles de Dieu par l'œuvre qui a été accomplie par Jésus. Oui, il a quitté son ciel de gloire. Afin que nous sachions que nous ne pouvons pas faire pour recevoir la vie éternelle. Mais pour la recevoir, nous devons accepter l'œuvre accomplie parfaitement par Jésus. Et hériter alors de cette vie éternelle qu'il nous accorde. Alors il y a, bien sûr, dans l'histoire que racontera Jésus ensuite, celle du bon Samaritain, il y a le comportement de ceux qui montrent par la manière, leur manière d'agir, leur manière de faire, qu'ils ont reçu cet héritage. Lorsque nous avons réalisé l'amour de Dieu pour nous, lorsqu'en priorité nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de toute notre pensée, alors lui, mettant en nous cet amour, nous rend capable d'aimer notre prochain. Ma question, c'est êtes-vous le prochain de quelqu'un ? Il s'agit là de poser la bonne question. Lorsque, eh bien, nous avons obtenu la vie éternelle, lorsque nous avons reçu l'amour de Jésus, sommes-nous devenus les prochains de quelqu'un ? Nous sommes-nous approchés de quelqu'un pour être comme ce bon Samaritain, ému de compassion à son égard ? Vous savez, à Madagascar, j'ai vu bien des personnes comme il est décrit dans cette histoire du bon Samaritain, qui ressemblait plus aux brigands ou aux scribes, aux lévites, aux religieux, qu'aux bons Samaritains. J'avais notamment, lorsque je regardais encore ce pays, je me disais, mais la richesse naturelle de ce pays, en diamants, en bois de rose, le bois de rose, c'est un des bois les plus chers qui existent. Un bois avec lequel ils fabriquent des instruments de luxe, ou des saules de bateaux de luxe. Et ce pays pourrait, avec ses richesses, nourrir toute la population. Mais malheureusement, les rois dans ce pays, les présidents dans ce pays se succèdent et ne valent pas mieux les uns que les autres, dépensant l'argent au détriment du peuple, pour remplacer des sommes exorbitantes dans des pays où plus tard, alors qu'ils doivent fuir le pays, ils trouvent la sécurité. Mais quelle sécurité ! Souvent, je regardais les pauvres dans les yeux et je me disais, mais comment un président peut-il regarder son pays dans les yeux en agissant de la sorte ? Cet homme me dira... L'homme malgache avec qui je discutais, ce président a fait construire un mur qui s'appelle le mur de la misère. Et autour de son palais, ce mur se dresse fier pour que quand cet homme reçoit des ministres ou des présidents d'autres pays, il puisse leur cacher la misère de son pays. C'est un peu le comportement de ces brigands, de ces hommes sans foi ni loi, qui finalement ne vivent que pour détrousser les autres. Malheureusement, sans Dieu, c'est une réalité que nous vivons peut-être chacun dans nos propres vies ou des fois dans nos propres familles. Mais dire oui à Jésus nous permet de recevoir cet amour qui alors nous emmène à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À devenir le prochain de quelqu'un. Vous savez, quand je dis « Es-tu le prochain de quelqu'un ?» Est-ce qu'un nom, est-ce que des noms s'inscrivent dans votre cœur ? Est-ce que dans votre cœur, quand je vous dis « Êtes-vous le prochain de quelqu'un ?» s'inscrit le nom d'au moins une personne pour qui Vous êtes comme ce Samaritain qui s'est arrêté devant la souffrance de cet homme, qui fut ému de compassion, rempli de l'amour de Dieu. Et qui alors, parce qu'il était ému de compassion, a pris soin de cet homme et l'a emmené jusqu'à ce qu'il puisse être guéri. Dans ce texte, il n'est pas écrit que cet homme qui a été aidé par ce Samaritain a été sauvé. Il est dit qu'il fut aidé par ce Samaritain. Mais j'ose espérer que le faire ou les actes d'amour de cet homme, eh bien, aient pu un jour créer dans le cœur de cet homme qu'il a sauvé de la mort, aidé, puisse créer dans son cœur, eh bien, la capacité de voir au travers de ce geste l'amour de Dieu. Sommes-nous les prochains de quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un au travers de nos vies qui voit l'amour de Dieu ? Peut-on montrer juste la photo de cette petite Evelyne ? Voilà une petite fille qui a été jetée dans la rue par ses parents, abandonnée comme tellement d'enfants, souvent parce que les parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Comprenons le contexte pour lequel des fois les parents les abandonnent. Et puis cette petite fille eh bien, a été trouvée par d'autres membres de sa famille, une tante, un oncle, et a été traitée comme une Cosette moderne. Elle a dû travailler tellement dur pour cette famille, au point où elle a failli mourir. Et alors quelques voisins qui ont vu la souffrance de cette fille, qui d'ailleurs est handicapée, puisque lorsqu'elle est née, on a cru qu'elle allait mourir, ou qu'elle était morte. Et donc on l'a tirée, et en la tirant par le bras s'est handicapé. Et puis cette petite fille a été emmenée à l'orphelinat. Et Vanessa me dira, tu vois, quand cette petite fille est arrivée, elle ne cessait pas de pleurer, jamais de sourire sur son visage. Jamais. Elle était tout le temps triste, elle ne parlait pas. Et lorsque nous l'avons vue, 3 ans après qu'elle ait été récupérée par l'orphelinat, voilà que cette petite fille a commencé à voir au travers de l'amour de ceux qui s'occupaient d'elle, la personne de Jésus, et qu'elle commence maintenant à être touchée au point, ça vous semble peut-être pas grand-chose ce sourire que vous voyez là, mais c'est un tel miracle de voir cette petite fille sourire. Es-tu le prochain de quelqu'un ? Ta vie est-elle une vie de laquelle tu peux dire elle est le prochain de quelqu'un ? Si tu dis que tu aimes Jésus, si tu dis oui, j'ai hérité de la vie éternelle, oui, j'ai réalisé combien Jésus m'aime, combien parce qu'il m'aime, il est descendu de ce ciel de gloire pour venir à ma rencontre et il m'a réconcilié avec Dieu qui est devenu mon Père et duquel j'ai hérité de cette vie éternelle. Si aujourd'hui tu peux dire cela, si aujourd'hui en priorité tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme, alors le manomètre de ce que tu dis doit se vérifier dans ta capacité à être le prochain de quelqu'un. Et quand je te demande si tu es le prochain de quelqu'un, alors un nom, des noms doivent s'inscrire sur ton cœur. Les noms de personnes vers qui tu vas, vers qui Dieu t'envoie, et qui ont besoin de voir au travers de ta vie une vie compatissante, une vie remplie et débordante de l'amour de Dieu. Oui, aime premièrement Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Et lui te donnera alors la capacité d'aimer ce vers qui lui-même t'enverra. Puis-je terminer par un dernier témoignage ? Nous avions terminé le 4e jour de formation le matin. Chaque après-midi, lundi, mardi, mercredi, nous sommes sortis sur le terrain à la rencontre des enfants pour démarrer le quartier. Et puis, voilà que le 4e jour, j'étais travaillé dans mon cœur. Je savais qu'il y avait non pas seulement une lutte physique par rapport au stress que pouvait emmener le nombre de ces enfants qui étaient là, mais également une lutte spirituelle. Et je savais dans mon cœur, je savais qu'il fallait qu'avant qu'on sorte sur le terrain, il nous faille prendre du temps devant Dieu, du temps pour nous placer devant lui. Alors oui, je le faisais le matin et puis le soir, mais je savais qu'il fallait encore davantage prendre du temps devant Dieu pour chercher des directives venant de lui, pour permettre que la dernière sortie se passe bien. Puis nous avons fait la formation le matin, puis un pot, c'était le dernier jour pour ceux que nous avions formés. Et puis voilà qu'arrive 13h, nous voulions prier, nous n'avons pas eu le temps. J'ai dit, bon, un quart d'heure avant qu'on sorte, on va se tenir par la main, on va prier. Et puis je retourne dans ma chambre, et voilà qu'en retournant dans ma chambre, je m'écroule par terre. Je m'écroule, je tombe par terre, j'ai goûté la terre de Madagascar. Elle n'est pas très bonne d'ailleurs. Et puis des gens me voient tomber, ils viennent me ramasser, ils m'emmènent au lit. Puis j'avais la tête qui tournait et les personnes sont venues me voir et m'ont dit « Mais est-ce qu'on continue la sortie ? Est-ce qu'on la fait quand même ?» J'ai dit « Bien sûr, faites-la. Allez-y. Et moi, je vais rester couché et pendant que vous allez sur le terrain, je vais prier. » J'étais cloué au lit. Vous savez, je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu, des fois, nous cloue dans notre lit. Le terme être cloué au lit. J'ai réfléchi cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu veux de temps à autre crucifier notre fer. Parce que des fois, notre fer se trouve dans ce que veut faire la chair. Et alors, quand il nous cloue au lit, il crucifie notre chair, notre fer, pour que nous puissions tout à nouveau privilégier celui de qui vient la bénédiction. Celui sans qui nous ne pouvons pas obtenir la bénédiction. Celui sans qui, même si nous avons un outil qui est excellent, ne peut pas être amené à produire du fruit dans les cœurs s'il n'est pas validé par le Dieu bien plus excellent que l'outil. Et alors j'ai dit dans mon lit, j'ai dit, Seigneur, ok, je suis cloué au lit. Je savais que Dieu m'avait cloué au lit. Vous savez, certains disent que c'est un combat spirituel. Oui, probablement, il y avait aussi de cela. Mais je savais, pour ma part en tout cas, que ça n'avait rien à voir avec un combat spirituel. Mais que Dieu m'avait cloué au lit pour que je puisse prendre du temps pour prier. Et pendant que les autres sont sortis, dans mon lit, j'étais couché. Et je dis, Seigneur, bénis-les. Maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Bénis l'histoire qui est racontée. Touche le cœur de ces enfants. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Permets qu'il n'y ait pas d'émeute, que tout se passe bien. Sois présent, même dans le goûter. Parce que je crois que même au travers du goûter qui est avalé, Dieu peut toucher un cœur. Dieu n'est limité par rien. Il peut être partout et dans tout ce que nous faisons, dans la mesure où nous prenons du temps. Et je dis, Seigneur, merci, parce que la leçon que j'en retiens, c'est qu'avant de parler de Dieu aux enfants, il est important que je parle des enfants à Dieu. Et alors, je le dis avec sourire, mais quand j'ai vu l'heure de la fin de la sortie arriver, et que je savais que, puisque j'avais eu des retours, que tout s'était bien passé, d'un seul coup, alors je le dis un peu en souriant, mais j'ai eu l'impression que je partais dans l'éternité. Ça ne m'était jamais arrivé. Mon épouse, elle était au pied du lit, elle est témoin, elle était assise au pied du lit. Je l'ai regardée, j'ai dit, Nadine, ça y est, Jésus me cherche. Ça y est, il me cherche. J'étais tellement heureux parce que je sentais une telle présence de Dieu. J'étais comme léger, j'avais l'impression que le conducteur de la voiture quittait le vieux véhicule et partait en direction du ciel. Et alors je disais, Nadine, je crois que c'est le moment. Écoute, au cas où, hein, je te salue. Alors, je ne sais pas pourquoi elle n'avait pas l'air très contente de ce que je disais à ce moment-là. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ? Seigneur, aide-nous à être amoureux de toi. Aide-nous à réaliser que pour avoir la vie éternelle, nous ne pouvons, pour en hériter, que la recevoir en devenant tes fils ou tes filles. Et cela, nous n'en avons la possibilité qu'au travers de Jésus, ton Fils, qui, lui, nous a réconciliés avec le Dieu créateur, qui, alors que nous disons oui à Jésus, devient notre Père, nous permet alors d'être adoptés dans cette famille. Et vous êtes une merveilleuse famille, vraiment. Et je me réjouis de faire partie de cette famille. J'aime à le répéter, nous sommes tous et toutes imparfaits, mais nous avons tous et toutes un point commun, c'est que nous aimons le même Seigneur. Amen. Et alors je dis Seigneur, merci, parce que si pas maintenant, en tout cas un jour je te rejoindrai, un jour je partirai dans l'éternité. Mais si tu veux, eh bien que, à cause de l'amour que tu mets en moi, si tu souhaites me permettre encore de trouver des personnes pour qui tu me demandes d'être le prochain, alors oui, je veux être le prochain de ces personnes. Je vous raconte une dernière petite histoire. L'autre jour, j'étais avec une jeune fille en urgence à l'hôpital. Rien de très très grave. En tout cas, cette jeune fille, depuis très petite, ne voyait rien. Et aucun soin jamais ne lui a vraiment été apporté pour différentes raisons. Et si bien que quand elle était, si elle était assise à la place de Sam, elle était incapable de distinguer qui je suis sur l'estrade. Et quand je suis arrivé chez l'ophtalmo en urgence à l'hôpital, elle lui a fait l'essai des différents verres. Elle avait 1 sur 10 et 2 sur 10. Aux yeux. Elle était quasiment aveugle. Et alors, elle a montré des grosses lettres. Et à la fin, la dernière lettre, c'était un H en gras, en gros. Impossible de ne pas le lire. J'ai dit, cette lettre, elle va arriver à la lire. Elle était à 3 mètres de la lettre. Elle était incapable de la lire. Et alors, elle lui a mis les lunettes qui ont corrigé sa vue. Elle a changé les verres. Et d'un seul coup, elle a vu cette lettre, le H qui était inscrit. Et alors elle a fait disparaître les grosses lettres pour mettre des lettres de plus en plus petites et elle voyait ces lettres. Et alors j'ai failli pleurer, j'ai dit « Seigneur, mais c'est tellement beau !» Alors que cette fille ne voyait quasiment rien, elle est passée du rien au quasiment une vue parfaite avec ses lunettes. Et je dis « Seigneur, mais aide-nous à nous aussi à avoir des lunettes spirituelles qui nous permettent de nous référer à ce que dit ta parole, comme cela a été dit à cet homme de loi, qu'est-il écrit dans la loi ? Ces lunettes spirituelles qui nous permettent non pas de regarder ce qui nous semble être bon, ce qui nous paraît être bon, mais ce que dit la parole de Dieu. Et que nous puissions alors au travers de ta parole, toujours davantage découvrir combien il est merveilleux de vivre sous la grâce de cet héritage de la vie éternelle. Mais combien également, en prenant du temps pour toi et en priorité pour toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu nous permets alors de recevoir de ta part cet amour qui nous rend capable d'être le prochain de celui vers qui Dieu nous envoie. S'il vous plaît, ne partez pas d'ici sans avoir dans votre cœur reçu cet héritage de la vie éternelle. Vous qui n'en êtes pas sûr, ne sortez pas de ce lieu parce que vous ne savez pas si vous serez là encore demain. Ne sortez pas de ce lieu sans avoir obtenu cet héritage qui vous permet, par la grâce de Dieu, de recevoir cette vie éternelle. Mais s'il vous plaît, vous qui appartenez à Jésus et qui l'aimez de tout votre cœur, de toute votre force, ne sortez pas de ce lieu sans dire à celui qui vous aime tant, donne-moi demain, après-demain, dans les jours qui viennent, d'être le prochain de quelqu'un. De l'aimer au point où lorsque je le vois, je serai ému de compassion. Et qu'il puisse alors, au travers de ma vie, voir combien tu m'aimes et combien cet amour alors, par mon faire, peut communiquer également ce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Fermons les yeux un instant. Sam, si tu...
Pendant que nos yeux sont fermés, pendant peut-être que les claviers arrivent, il y a deux choses qui ont été répétées ce soir plusieurs fois. La première, et je crois que ça s'adresse aux croyants ici dans ce lieu, mais également partout, partout devant les écrans. De qui êtes-vous le prochain? Et quel est le prochain qui a été béni par vous? Souvent, nous ne considérons que ce que les autres n'ont pas fait pour nous. Mais nous ne considérons que rarement ce que nous n'avons pas fait pour les autres. La lecture que nous avons est toujours une lecture qui part de ce que les autres n'ont pas fait à notre égard. Ce soir, Dieu dit le contraire. Considère ce que toi, tu pourrais faire pour l'autre. La parole nous rappelle que quand nous pouvons faire le bien et nous ne le faisons pas, nous péchons. Ce qui a été relevé ce soir n'est pas subsidiaire ni secondaire, c'est essentiel. Pendant un instant, je voudrais simplement que chacun puisse s'éprouver, commencer par moi-même. Je veux m'éprouver moi aussi. Combien de fois aurais-je pu faire le bien et ne l'ai-je pas fait? Combien de fois aurais-je pu faire du bien à mon prochain et ne l'ai-je pas fait? Nous avons tous des raisons. Comme pouvait l'avoir le sacrificateur et le lévite qui sont passés à côté de cet homme qui se mourait. Nous avons tous des explications à donner, des excuses, mais est-ce qu'au fond de nous-mêmes, est-ce que ça tient? Voulons que l'Évangile devienne vivant. Dans le livre des Actes, il pouvait dire, voyez comme il s'aime. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. À devenir une bénédiction pour ton prochain. Bertrand a souligné également que l'héritage était une grâce. C'est pas un dû. C'est pas un dû, c'est pas un devoir que de donner un héritage. C'est un privilège. On ne le mérite pas. Souvent, on le reçoit parce qu'on est fils et filles. Êtes-vous fils et filles de Dieu? Avez-vous reçu Jésus comme votre sauveur? Pendant que nos yeux sont fermés, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous ne pouvez pas vous considérer comme étant enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu en recevant volontairement et délibérément Jésus-Christ comme son sauveur. Pendant que les yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dit mais moi ce soir je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Moi, je veux devenir enfant de Dieu. S'il n'y avait qu'une personne, alors je serais tellement heureux de prier pour vous. Mais il y a peut-être plus qu'une personne. Il y a peut-être 2, 3, 5, 10, je ne sais. Je voudrais prier pour vous. Et pour cela, je vous invite à lever votre main. Votre main levée signifie, moi, je désire devenir enfant de Dieu. Moi, je désire devenir enfant de Dieu. Oui, mademoiselle. Oui. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. Oui. Moi, je désire devenir enfant de Dieu. C'est... Oui, madame, que Dieu vous bénisse. Oui, tout au fond, un enfant. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne mérite pas. On reçoit la grâce en Christ. S'il y a encore quelqu'un, levez votre main et je vais prier. Et ce que nous allons faire après, nous allons également prier pour les malades. J'aimerais simplement inviter ceux qui ont levé leurs mains, oui monsieur, eh bien à s'approcher ici. Et l'on priera pour vous. On priera pour vous, on priera pour vous. En même temps que les malades s'approchent, approchez-vous et on priera pour vous. Est-ce que l'Église peut prier pour ses amis qui ont levé leurs mains? Seigneur, tu es là ce soir. Et je te remercie parce que tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La grâce n'est pas terminée. Il n'est jamais trop tard. Peut-être considérez-vous que votre vie a été tellement terrible que vous ne méritez pas. Mais je vous rassure, aucun d'entre nous n'a mérité quoi que ce soit. Tout n'est que grâce. C'est gratuitement que nous avons été justifiés. Seigneur, tu vois ces chers amis qui ont levé leurs mains, non pas devant moi, mais devant toi. Et qui ce soir s'approche non pas de moi, mais s'approche de toi. Non pas d'une église, mais du Sauveur. Pour devenir enfant de Dieu, pour hériter de la vie éternelle. Je veux les bénir ce soir. Là où ils se trouvent, là où ils et elles ont levé leurs mains, Seigneur, tu les visites. Je te remercie pour ton amour et ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul revient l'honneur et la louange au siècle des siècles. So